j'habiterai selon Saint-Marc. Le 1er juin, dans la fête des pains sans levain, le mémorial de la vie pascale, les disciples de Jésus lui disent : où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant : allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle ? Je pourrai manger la Pâque avec lui. Vous habiterez à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour vous des préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus leur a dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en prirent tous. Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Olives. Nous fêtons l'institution de l'Eucharistie. Nous célébrons donc le mystère, c'est-à-dire ce que Jésus a vécu avec ses apôtres. Aujourd'hui, nous avons une fête de dogme. Qu'est-ce que cette fête de dogme ? Ce n'est pas simplement revivre le mystère, mais c'est regarder un énoncé de la foi. Comme dimanche dernier, fête de dogme de la Trinité. Regardez, nous nous plongeons dans la foi. Et pourquoi alors on veut des fêtes de dogme ? Pour un moment, la foi a été attaquée, il a été nécessaire de l'affirmer et de la célébrer. Alors, ça s'est passé au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, c'est un siècle très particulier, parce qu'à l'instant commence à arriver en Occident, et surtout la vie religieuse et la vie intellectuelle commencent de plus en plus à se séparer. Jusqu'au XIIe siècle, l'enseignement s'est fait dans les cloîtres. Simplement parce que l'Empire s'est effondré et ceux qui ont reçu l'héritage antique, ce sont d'abord des moines. Des moines qui ont besoin de la grammaire, qui ont besoin des outils antiques pour pouvoir lire la Bible. Et donc, dans chaque monastère, il y a une école, et dans cette école, il y a la formation intellectuelle avec des arts aussi humains. Mais tout en même temps, il y a la vie liturgique, il y a la vie spirituelle, il y a la vie intellectuelle. Au XIIe, XIIIe siècle, il y a la création d'universités qui sont faites par l'Église, mais qui sont de plus en plus autonomes de la vie religieuse. Et commence à se développer une forme de rationalisme. Il y a des grands frères du XIIIe siècle, vous pensez à Saint Thomas d'Aquin, là aussi des figures qui, de plus en plus, ont une vision encore naturaliste, une vision qui est de plus en plus naturaliste de l'Église. De cela, c'était Béranger de Tours. Et Béranger de Tours, dans ce réseau d'université, va commencer de plus en plus à affirmer que finalement, l'Eucharistie, Jésus n'est pas réellement présent, Dieu n'est pas réellement présent, mais c'est un symbole qui nous permet de comprendre que Dieu nous accompagne dans notre vie. Donc, quand je communie, je ne peux pas. Réellement, je ne reçois pas réellement Dieu, mais je reçois une aide qui me permet de comprendre que Dieu est avec moi. Donc, Béranger va commencer à commander ces théories, mais surtout, c'est ça qui est le plus important, au moment où ces théories vont commencer à se diffuser. Parce que c'est ça le vrai problème d'une hérésie. Le vrai problème d'une hérésie, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui dise des absurdités. C'est que ces absurdités rejoignent l'esprit d'une époque et que plein de gens se retrouvent là-dedans. C'est ça qui fait l'hérésie. L'hérésie, c'est que l'erreur se répand partout. Et c'est ce qui se passe avec l'orange. Il y a plein de gens qui se disent, mais en fait, oui, en fait, c'est plus rare. Il y a un compromis. Donc certains rôles se répandent un peu, et quelqu'un fait la liste. D'abord, la première chose, c'est que les condamnations publiques. On a 14 conciles qui vont condamner les rangées de feu. Ça montre que le point de vue de l'Église est très clair qu'il y a des erreurs. Les 14 conciles, ça montre aussi de l'ampleur des dégâts. Ce n'est pas des conciles économiques, c'est des conciles de feu partout. Donc dans chaque zone, les délais sont obligés de se réunir pour dire non, là, ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce qui va se passer surtout, c'est qu'il va y avoir aussi un mouvement spirituel. Alors, ça commence en Belgique, il y a deux grandes figures, il y a Eva de Liège et Julien de Cordon, qui vont demander, deux religieuses, qui vont demander qu'on mette en place une fête du Saint-Sacrement. Et elles veulent prier, honorer le Saint-Sacrement. La Belgique va faire passer cette intention. Et de plus en plus, ça va commencer dans le duché de Liège, on va faire cette célébration. Et puis, surtout, il va y avoir une intervention divine. On a un prêtre qui s'appelle Pierre de Prague. Pierre de Prague, il n'est pas un mauvais prêtre, c'est un prêtre de la morale, il et tout ça. Mais il a quand même des doutes. Il y a des doutes sur la présence eucharistique. Il va partir en Italie, il va rencontrer le pape, pas pour faire les sélections, mais il rencontre le pape. Et sur le retour de son voyage à Rome, dans la ville de Borsella, il célèbre la messe. Et pendant la messe, juste après avoir dit les paroles de l'institution, l'hostie se transforme en chair. Sauf le droit, il tient l'hostie qui reste. De la chair tombe du sang. Suffisamment d'instants pour que ça transperce le corporel, il en a et que ça vienne toucher la pierre de terre. Alors, immédiatement, bien sur l'évêque est au courant, le pape est au courant, mais il y en a quatre qui se dit que c'est le signe de cette fête qui a lieu à Liège. Pour lesquels il demandait de recevoir des demandes pour qu'elles soient étendues à toute l'Église, soient réellement étendues. Donc il va publier une bonne demandant que, en fait, la fête du très saint sacrement. Il va demander à Saint Thomas d'Aquin de composer l'office de cette fête. Et la fête va se répandre. C'est le 13e siècle. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la même situation. À 10, la majorité des catholiques, quand on parle de la majorité, je ne parle pas des choses qu'on peut complètement abandonner là. Ceux qui disent que catholiques, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Au fond, ça veut dire soit qu'il ne comprend pas, soit qu'il ne croit pas au mystère de la vie. Un des mots, c'est ce que dit Béranger. Il croit en Dieu, il croit en Jésus, il croit aussi que Dieu, il croit que ça peut les aider. C'est le renouvellement du sacrifice de Christ que nous savons qu'il va croire dans le communion et le Seigneur Jésus. Parce que s'il croyait ça, il ne peut pas dire je crois en Jésus et je n'ai pas besoin de le recevoir. Je n'ai pas besoin de le retourner à ce matin, je n'ai pas besoin d'être là le dimanche. Nous sommes sauvés par le baptême
Thank you.
adorer le Saint-Esprit. Quand la vie eucharistique, c'est pas simplement comme une dimanche, c'est le vénérer de cette dimanche. C'est pour ça que quand c'est dans l'église, il y a un tabernacle, et quand il y a un petit tabernacle, il y a une lampe qui brûle. Ça vaut de la prière. C'est très bien, c'est voir le Notre-Dame, les gens qui passent. Comme il y a l'église, c'est très bien. Vous arrivez dans un village, il y a une église magnifique, et puis impossible de rentrer. Un autre signe aussi, c'est le jeûne eucharistique, qui est quasiment disparu. Ce que je parle en plus comme le droit d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir mangé une heure avant la communion. Il ne faut pas manger des vidéos. Voilà, on apprend dans les depuis la procession eucharistique. La procession eucharistique de Dieu, qui est quasiment plus saison. Quel que soit le relativisme ambiant,